Au micro, Idrissa Seydoulia pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, bonjour. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie présenteront ce mardi chacun leur projet d'accord sur la gestion du méga-barrage controversé construit par Addis Abeba sur le Nil Bleu, avec l'objectif d'aboutir à un document unique. C'est ce qu'a annoncé dimanche Khartoum après une nouvelle réunion virtuelle des parties impliquées. Au Zimbabwe, critique virulente de la conférence des évêques catholiques contre la répression menée par le pouvoir du président Emmerson Mnangagwa en Shona contre ses opposants. Réaction de la ministre de l'Information qui accuse l'archevêque Robert Ndlovu, un ébélé président de la conférence, de mener lentement sa congrégation vers un génocide du type de celui du Rwanda en 1994 contre la minorité Tutsi. Et vive condamnation par l'opposition d'un discours qualifié de haine incendiaire. Pour rappel, dans les années 80, l'armée de l'ex-président Robert Mugabe en Shona avait tué dans le Matabeleland quelque 20 000 Nébélés considérés comme des opposants. Ici aux États-Unis, début officiel ce lundi à Milwaukee, dans l'État clé du Wisconsin, de la convention du Parti démocrate pour investir son candidat à la présidentielle du 3 novembre face au président sortant, le républicain Donald Trump. Cette convention virtuelle inédite en raison du coronavirus sera l'occasion pour les démocrates de lancer officiellement la candidature de l'ex-vice-président Joe Biden, qui la semaine dernière a choisi comme colistière la sénatrice africaine-américaine et indienne-américaine Kamala Harris. Les deux interviendront respectivement jeudi et mercredi depuis Wilmington dans le Delaware où réside M. Biden. Aucun intervenant ne viendra parler en personne à la convention à Milwaukee qui prend fin jeudi. Oubliez l'ambiance traditionnelle de ces grands messes politiques. À Milwaukee, le Wisconsin Center ne devrait accueillir qu'une activité très réduite. Le président Trump s'est saisi de l'annonce selon laquelle la convention serait uniquement virtuelle pour affirmer que les démocrates ignoraient encore une fois les gens merveilleux du Wisconsin. Et il doit venir prononcer ce lundi même un discours en personne à Oshkosh, au nord de la ville. M. Trump ne devrait pas non plus se rendre à la convention républicaine prévue du 24 au 27 août. Ailleurs dans le monde, les élections générales en Nouvelle-Zélande sont reportées de 4 semaines en raison d'un rebond de la pandémie de coronavirus dans l'archipel, a annoncé ce lundi la première ministre Jacinda Ardern. Au Maroc, les autorités ont fermé dimanche plusieurs quartiers de Marrakech en raison d'une recrudescence d'infections au coronavirus, tandis que le PIB japonais s'est effondré de 7,8% entre avril et juin par rapport au trimestre précédent sous l'impact de la pandémie. Un plongeon historique marquant un troisième trimestre d'affilée de contraction pour la troisième économie du monde. La zone euro a aussi accusé au deuxième trimestre un recul de 12,1% de son PIB, plombé par les plongeons encore plus importants des économies françaises, italiennes et espagnoles. Et l'Inde a dépassé ce lundi les 50 000 morts avec 900 décès au cours des dernières 24 heures. Au Bélarus, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche à Minsk pour exiger le départ du président Alexandre Loukachenko qui refuse de lâcher le pouvoir une semaine après sa réélection contestée en ce qui constitue l'un des plus grands rassemblements d'opposition de l'histoire du Bélarus. En Thaïlande, au moins 10 000 manifestants se sont rassemblés dimanche à Bangkok pour protester contre le gouvernement et réclamer une réforme de la monarchie au moment où la tension monte dans le pays et que le mouvement pro-démocratie prend de l'ampleur. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes a eu un entretien téléphonique dimanche avec son homologue israélien pour marquer le début des liaisons téléphoniques directes. suite de nos informations. En Somalie, les djihadistes Shebab ont lancé hier dimanche une attaque d'envergure sur un hôtel réputé de Mogadiscio, tuant 11 personnes. Claire Morin-Gibourg.
L'attaque a débuté par l'explosion vers 18h, heure locale, d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite situé sur la plage du Lido et fréquentée par des dirigeants somaliens. Des témoins ont déclaré au service Somali de la Voix de l'Amérique qu'après l'explosion, des hommes armés avaient pris d'assaut l'hôtel et affronté les forces de sécurité arrivées sur les lieux. Les combats ont duré plus de 4 heures avant que les forces spéciales viennent à bout des djihadistes. Les militaires ont réussi à évacuer plus de 200 personnes de l'hôtel, dont le propriétaire, Abdoulahi Mohamed Nour, un ancien ministre. Ismaël Mouktar, porte-parole du ministère de l'Information, a déclaré que 11 personnes avaient été tuées, dont un agent de sécurité. Les services ambulanciers ont évacué près de 30 blessés. Le groupe djihadiste Al-Shabaab a revendiqué l'attaque. Les hôtels ont souvent été la cible des Shebab. En février 2019, une attaque de près de 24 heures avait fait au moins 20 morts à Mogadiscio. Un mois plus tôt, ils avaient attaqué un hôtel de luxe de Nairobi, tuant 21 personnes.
En Côte d'Ivoire, une responsable de la société civile, Pulcheri Balé, qui avait appelé à des manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara, a été arrêtée à Abidjan. Davantage de détails avec Michel Joseph.
Pulcheri Balé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, une organisation de la société civile proche de l'opposition, a été arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche en compagnie de deux de ses collaborateurs par des hommes encagoulés, selon Samba David, responsable de l'ONG, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. L'activiste serait, selon lui, accusé d'incitation à la révolte et d'appel à l'insurrection, à l'appel de l'opposition et de la société civile, dont assis les manifestations contre la candidature d'Alassane Ouattara, interdite par le pouvoir, ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts et une centaine de blessés. 68 personnes ont été interpellées selon un bilan officiel. Élu en 2010 et 2015, le président Alassane Ouattara a annoncé le 6 août qu'il briguerait un troisième mandat. La constitution ivoirienne limite à 2 les mandats présidentiels, mais la réforme a été adoptée en 2016. Pour les partisans de Ouattara, cela a remis le compteur des mandats à 0, tandis que ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une troisième candidature.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation à la veille de la fête de l'indépendance du pays célébré ce 17 août. En raison de la pandémie de COVID-19, les autorités ont revu le programme des festivités. De Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
Ce discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba tranche, selon lui-même, avec les annonces habituelles. Faisant le point des 10 dernières années de son pouvoir, le chef de l'État est longuement revenu sur ses réalisations et ses projets en vue. Pour se développer, le Gabon a besoin d'infrastructures modernes. Nous avons bitumé plus de routes en 10 ans que depuis l'indépendance de notre pays. Notre réseau routier sera renforcé de nouveau avec la Transgabonaise qui traversera notre pays d'est en ouest sur 780 kilomètres, soutient Ali Bongo Ondimba. Pour le chef de l'État, la Transgabonaise devrait être achevée en 2023. Elle permettra de développer les échanges nationaux, la création d'emplois et la naissance de nouvelles opportunités économiques pour les 9 provinces du Gabon. Sur un tout autre plan, le chef de l'État affirme que l'accent sera désormais mis sur le savoir gabonais grâce aux nouvelles offres de formation. Dans les mois à venir, en plus du renforcement des capacités actuelles, plusieurs centres de formation verront le jour, a déclaré Ali Bongo Ondimba, qui cite à titre d'exemple l'école d'infirmières et d'infirmiers qui ouvrira ses portes au dernier trimestre de cette année à Libreville. Les commémorations de la fête de l'indépendance du Gabon se résument ce 17 août par une parade militaire sur l'esplanade du palais présidentiel, le défilé habituel au bord de mer, la cérémonie d'hommage au premier président du Gabon, Léon Ba, et la retraite au flambeau ont été annulées officiellement pour des raisons de crise sanitaire. Libreville, Ismaël Obiangze pour VO Afrique.
La Minute Écho, John Linden.
Les États-Unis ont signé un deuxième contrat du Millennium Challenge Corporation d'un montant de 450 millions de dollars, environ 250 milliards de francs CFA avec le Burkina Faso. Cette assistance va servir à améliorer le secteur de l'énergie du pays au profit de 8 millions de Burkinabés selon le gouvernement. La signature de ce second accord, paraffée par l'ambassadeur du Burkina Faso à Washington et le président directeur général du MCC, le Millennium Challenge Corporation, est intervenue jeudi. Le président du Faso, Rochma Christian Kabore, a salué depuis Ouagadougou cette aide américaine lors de la dite cérémonie retransmise en visioconférence. L'économie tunisienne dépendante du tourisme a, selon l'Institut national des statistiques, reculé de 21,6% au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année dernière. En cause, la crise du Covid-19. Le chômage lui est passé à 18% au deuxième trimestre. Le gouvernement a mis fin à toutes les restrictions à la circulation et aux entreprises et a ouvert ses frontières maritimes, terrestres et aériennes le 27 juin. Cependant, la pandémie frappe durement le secteur du tourisme qui contribue à près de 10% du produit intérieur brut et dont les revenus au cours des 6 premiers mois de cette année ont chuté de plus de 50% par rapport à la même période en 2019. L'Irlande a conclu un accord pour rendre au Nigeria 6,5 millions de dollars pillés par Sani Abacha, qui a dirigé le pays de 1993 jusqu'à sa mort en 1998. Selon le ministre nigérian de la Justice, l'Irlande a gelé les fonds en octobre 2014 dans le cadre d'une opération internationale qui a gelé plus d'un milliard de dollars dans le monde. L'accord intervient alors que le Nigeria se démêle pour obtenir de l'argent et relever son économie frappée par la pandémie du Covid-19.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec l'Europa League, Séville écarte Manchester United et file en finale.
Oui, mené au score et sauvé plusieurs fois par son gardien de but, le club andalou a finalement éliminé les Red Devils, score 2-1. Vendredi prochain, Séville visera la 6e Ligue Europa de son histoire contre le vainqueur de la seconde demi-finale qui se jouera ce lundi entre l'Inter de Milan et le Shakhtar Donetsk.
En Afrique, les éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 renvoyé à 2021.
Après l'Asie, c'est au tour de l'Afrique de repousser les matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde en 2022 au Qatar. D'après la chaîne marocaine Ariadia, qui a cité une source de la Confédération africaine de football, les matchs de qualification pour la zone Afrique seront renvoyés pour l'année prochaine à cause de la propagation du coronavirus.
La CAF a également reporté les éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, Costa Rica-Panama 2020.
Oui, initialement prévu en septembre, ces éliminatoires ont été reportés à une date ultérieure, a annoncé l'instance qui gère le foot africain dans un communiqué. Les raisons évoquées, ce sont les restrictions du voyage dans certaines parties de l'Afrique à cause du coronavirus. La CAF a dit surveiller de près la situation et travaille avec les autorités compétentes en ce qui concerne l'organisation des matchs et fera des déclarations en conséquence en cas de développement qui affecteront le déroulement d'un match au lieu désigné.
Direction la Tunisie pour parler de la 20e journée du championnat.
Et le leader au classement, l'Espérance de Tunis, est allé chercher le point du nul 1-1 à Sousse face à l'Étoile du Sahel avec 50 points. Les 100 et or comptent 10 points d'avance sur le club sportif sfaxien vainqueur 1-0 de l'AS Soliman. En clôture de cette 20e journée, l'US Monasti, troisième au classement, a été accroché à domicile par Metlaoui, score 1-0.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, d'anciennes vedettes de football s'engagent dans la lutte contre le Noma, une maladie infectieuse qui atteint et défigure le visage des enfants dont l'âge varie entre 2 et 6 ans. C'est à travers l'association Noma Fund, fondée par Roger Mila et Joseph-Antoine Bell. 10 pays d'Afrique sont ciblés par le projet Agir contre le Noma, mis sur pied par ses ex-footballeurs camerounais. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tape.
Faire reculer le Noma en vue de son éradication complète à l'horizon 2030 en Afrique, c'est le principal objectif visé par l'association Noma Fund. À travers une initiative de levée de fonds, les anciens lions indomptables, Albert Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, Patrick Mboma et François Omambéik entendent susciter une solidarité mondiale contre cette maladie qui touche 140 000 personnes dans le monde. Joseph-Antoine Bell, cofondateur de l'association Noma Fund.
Dans le monde, vous avez 10% des gens qui ont 90% des richesses de ce monde. Ils ont de l'argent et aimeraient faire des choses. Pour faire ces choses-là, il faut que celles-ci soient connues. Nous apportons la garantie du sérieux de la gestion de ce que les gens apportent. C'est vraiment pour les enfants.
L'une des phases du projet prévoit la sensibilisation et la prévention contre le Noma dans 10 pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Libéria, le Nigeria et le Ghana en Afrique de l'Ouest, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Cameroun en Afrique centrale. Des pays où cette maladie infantile fait encore des ravages. Dr Georges Aïssi est médecin et secrétaire général de l'association Noma Fund.
C'est lors de la dernière mission, le bateau hôpital qui est arrivé au Cameroun, Mercy Ship, qu'on a découvert des grands foyers dans la région du Septentrion, Extrême Nord, et puis à l'Est. On attendait tout, sauf ça. Il y a eu des opérations dans le bateau, à peu près une centaine de cas. D'après les informations qu'on a de nos collègues qui sont dans d'autres pays, ils vivent ça, et dans une certaine indifférence aussi, parce que les solutions ne sont pas toujours trouvées. Dans certains pays, c'est même considéré comme un sort qu'on a jeté à un enfant.
Selon les experts, la prise en charge chirurgicale d'un seul patient atteint de Noma en Europe coûte entre 75 et 130 millions de francs CFA. Roger Mila préconise une solution endogène pour alléger ses frais.
Nous sommes mis devant pour que nous puissions, si possible, parce que ce sera par rapport à ce que les partenaires pourront mettre dans la cagnotte, construire un hôpital qui puisse vraiment soigner tous ces enfants. Pas seulement au Cameroun, dans toute l'Afrique centrale, même dans l'Afrique de l'Ouest.
90% des enfants atteints par le Noma en meurent. Les rescapés présentent des formes mutilantes de leur visage et vivent dans l'isolement. Maladie dite de l'extrême pauvreté. Elle se prévient pourtant, selon Dr Roger Aïssi.
C'est une maladie qui est évitable par la prévention, dont l'hygiène buccale, bien la bonne nutrition. Elle se résout vraiment avec un minimum. Quand l'enfant est détecté tôt, il suffit de prendre un petit antibiotique pendant 2 à 3 jours et vous voyez tous ces lésions régresser complètement.
Le projet Agir contre le Noma à l'horizon 2030 aura également un projet de prise en charge gratuite des enfants victimes de Noma dans des centres d'accueil des premiers soins sous la direction des praticiens africains progressivement formés. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Comme dans de nombreux pays, les activités sportives sont complètement à l'arrêt au Sénégal, en cause les mesures restrictives imposées pour lutter contre la COVID-19. Les arts martiaux sont un des secteurs les plus affectés, avec des camps de vacances annulés, des parents désorientés et des athlètes sans compétition. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagui.
Exercices physiques improvisés, maintien musculaire à domicile, les pratiquants des arts martiaux font de leur mieux pour pallier le manque de compétition. Une situation très difficile pour les athlètes, comme l'indique Sophie Mbaye, capitaine de l'association sportive des forces armées du Sénégal. Pour elle, les autorités auraient dû encadrer la pratique du sport et non la suspendre.
On aurait dû avoir l'occasion d'organiser les choses, de faire les distanciations, de porter les masques et tout, mais on nous a carrément interdit de les regroupements et tout, donc on est obligé de tout annuler, c'est ça. C'est très difficile de ne pas faire partie des compétitions ou bien de ne pas compétir, mais vu qu'elles ont été décalées, on est obligé, voilà, de rester comme ça, jusqu'à nouvel ordre.
Cet arrêt est ressenti de plein fouet par les promoteurs des sports de combat qui sont avant tout des soutiens de famille. Sensei Mohamed Lamine Baye, directeur technique de Timing Karate Club et organisateur d'un des plus grands camps de vacances, regrette l'absence d'accompagnement du gouvernement.
On tirait nos ressources dans les dojos, maintenant ce n'est plus possible. On a fermé ces endroits et les élèves sont confinés à la maison. Il n'y a pas d'aide des gouvernants sur nous, les maîtres de sport. Il n'y a même pas d'aide de la part des fédérations, alors que ça ne devait pas se passer comme ça, dans la mesure où les dojos sont affiliés à la fédération en participant avec de l'argent pour contribuer au développement du sport sénégalais. Les enfants ont des licences professionnelles renouvelables chaque année avec de l'argent des clubs. La normale voudrait que dans ces périodes de crise, qu'ils nous assistent.
L'arrêt des activités sportives déteint aussi sur les parents qui profitaient des camps de sport pour placer leurs enfants dans des espaces sécurisés durant toute la durée des vacances. Sambassi, qui a deux enfants qui pratiquent les arts martiaux, se désole de la situation, mais avoue qu'il en profite pour apprendre de ses enfants.
Oui, je crois que le karaté, c'est très intéressant. C'est une approche très intéressante pour l'éducation et la distraction des enfants. Maintenant, à la maison, j'essaie de les occuper. Il a été prouvé quand même qu'avec le confinement, c'est plus difficile, que les enfants vont prendre un peu du poids. Ils vont un peu s'engourdir. Je crois que c'est un peu plus difficile, mais tout dépend de l'approche. Par exemple, je les laisse regarder des vidéos sur YouTube, des katas. C'est l'occasion aussi pour moi de voir plus clair, d'être un peu plus curieux, de partager parce qu'ils ont beaucoup à m'apprendre.
La COVID-19 et les restrictions qu'elle impose mettent les acteurs des sports dans une situation délicate. Si le football a reçu une subvention de la part de la fédération, les arts martiaux attendent toujours une aide des autorités pour surmonter cette crise sans précédent. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Bénin, les journalistes proposent la relecture du code du numérique. Depuis son adoption, des journalistes ont fait les frais de cette loi que certains disent taillée sur mesure pour museler les journalistes. Épaulé par la Fondation Frédéric Hébert, un atelier de plaidoyer a eu lieu dans ce sens afin que le code du numérique soit un document au service du journaliste. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Les journalistes et les experts se sont réunis à l'initiative de l'UPMB, l'Union professionnelle des médias du Bénin, pour faire des propositions afin de réformer ce code, objet de polémique et de récrimination. Pour Zakiat Latondi, présidente de l'UPMB, il s'agit de relever les imperfections du code et ses aspects qui entravent la liberté de la presse au Bénin.
Il s'agit essentiellement de répertorier les infractions de presse par le biais d'une communication électronique, ainsi que les dérapages dans le cadre des publications en ligne. Relever les violations des droits des professionnels des médias ainsi que toute situation relevant de la violation de leurs droits dans l'exercice de leurs fonctions.
Le code du numérique, depuis son adoption le 20 avril 2018, n'a jamais été accepté par les journalistes. Beaucoup y voient une manière de bâillonner la presse. Ariel Kassa est activiste.
Le code sur le numérique est un piège qui a été ouvertement donc posé aux journalistes béninois et je voudrais inviter les députés à désormais prendre conscience de ce qu'ils font, voter les lois sur la base donc de l'intérêt général, de l'intérêt de ceux que ça concerne réellement plutôt que de le faire dans leur propre intérêt.
Bon. Beaucoup pensent qu'il y a trop de dérapages dans le monde des médias au Bénin. Bien trop de professionnels se sont laissés manipuler par les politiques, pense Edouard Kapotiti, ingénieur agronome.
Le politique cherche toujours à manipuler les journalistes. Nous-mêmes, on ne cesse pas et on tombe dans leur panneau. Eux, ce n'est pas leur problème.
Je ne sais pas que je suis en train de peindre l'espoir en noir, non. Mais je dis tout simplement qu'on peut mieux faire.
Mais l'autre chose que dénonce Amélie Amoussou est le fait que la plupart des organes de presse sont promoteurs des hommes d'affaires ou des hommes politiques qui ne savent pas grand-chose du code de déontologie et de l'éthique.
Lorsque vous observez bien, nos hommes politiques, dès qu'ils commencent par monter et dès qu'ils ont de grandes ambitions politiques, ils veulent avoir leurs journaux à eux, ils veulent avoir leur radio à eux, ils veulent avoir leur presse écrite à eux et ils investissent même pour faire créer ces organes de presse-là.
La liberté de la presse et la sauvegarde des droits des journalistes au Bénin préoccupent également l'ambassade des États-Unis d'Amérique, surtout après la suspension des médias en ligne et la violation par certains journalistes du code du numérique. Après une entrevue avec le ministre de la Communication, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, s'est réjoui de la volonté du ministre à trouver des solutions aux problèmes qui se posent en termes de violation des droits des journalistes béninois.
Et nous continuons à chercher les opportunités de travailler ensemble parce que la liberté de la presse et des médias est une des bases très importantes des démocraties comme le Bénin et les États-Unis. Et nous devons travailler ensemble en ce regard.
Le code du numérique constitue une avancée décisive qui permettra au Bénin de mettre en œuvre son ambition de devenir le leader digital du continent noir. Toutefois, les contestations à divers niveaux méritent réflexion de la part de tous les acteurs concernés. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Après le succès de son premier long-métrage, Run, à Cannes, le réalisateur ivoirien Philippe Lacote nous revient avec son tout nouveau film intitulé « La nuit des rois ». Arzuma Compaoré s'est entretenu avec lui pour en savoir davantage.
« La nuit des rois », c'est une nuit dans une prison de Côte d'Ivoire, dans la prison d'Abidjan, une prison d'Abidjan qui s'appelle la Maca, et qui est construite au milieu d'une forêt. Voilà. Donc c'est une nuit de renversement de pouvoir. Il y a un jeune homme qui arrive dans cette prison. C'est un jeune pickpocket. C'est la première fois qu'il vient en prison. Et il arrive une nuit de pleine lune. Et il se trouve que dans la tradition des prisonniers, une nuit de pleine lune, c'est la nuit du roman. Donc on choisit un prisonnier qu'on appelle roman, comme un roman. Et on lui demande de raconter une histoire toute la nuit. Et ce prisonnier est sacrifié à la fin de la nuit. Dès qu'il a fini son histoire. Et donc ce jeune homme-là va se retrouver pris dans ce rituel, dans ce dispositif qui est alimenté par des rivalités dans la prison, puisqu'il y a des successions, il y a un chef qui est malade, donc qui va être le nouveau chef, et voilà, il est pris au milieu de ça, et il va devoir raconter des histoires pendant toute une nuit, et il va devoir se libérer par la parole.
Qu'est-ce que la production de ce film vous aura appris finalement?
Ce film était un peu particulier parce qu'il était en réponse aussi à Rome, qui était un tournage très très éclaté sur Abidjan, qui était tourné en pleine crise politique, donc avec des militants sur le plateau, et on bougeait beaucoup, on changeait de lieu, donc là on avait envie de se concentrer un peu sur un lieu. Donc ce film était particulier parce qu'il nécessitait vraiment un gros décor, construction d'une prison, donc avec Samuel Tesser, le décorateur, avec Marius Kaba, on a travaillé sur ce décor-là. Et ce qui m'a appris, c'est tout le travail aussi de figurant, parce qu'une prison, c'est une cellule en Afrique, souvent c'est une cellule collective, hein, dans les prisons africaines, c'est une grande cellule, là dans le film, c'est une grande cellule avec 150 personnes, reste en permanence dans le cadre, c'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a du bruit, ça bouge et tout. Voilà, donc de diriger tous ces acteurs-là, parce que c'était pas que les figurants, c'était plus que les figurants. De diriger ces acteurs-là, il y avait des danseurs, il y avait des chanteurs, il y avait des pratiquants d'arts martiaux. Voilà, donc tout ça, de créer comme ça une arène. Voilà, c'est un travail qui était très très difficile mais très intéressant.
D'ores et déjà, le film sélectionné dans des festivals prestigieux, en lice pour la Mostra de Venise, le Toronto Film Festival et bien d'autres. Quelle est la carrière que vous espérez avoir pour ce nouveau film que Run, par exemple, n'a pas eu?
L'essentiel, c'est que le film trouve son public. Là, on est sur une coproduction avec le Canada, avec la Côte d'Ivoire, avec la France, avec le Sénégal. Donc, c'est une équipe internationale qui a produit ce film avec des esthétiques très différentes que j'ai essayé d'unifier. Et donc, l'essentiel, c'est que le film touche son public sur ces différents continents et arrive à raconter quelque chose.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.